Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Ça va, je vous vois pas en vidéo,
mais
vous êtes là?
Je suis un petit problème de connexion, mais ça, je devrais arriver bientôt en image. Et pour ceux qui ont le Facebook de Sud Radio, pourront nous voir tous les deux et voir Yann Arthus-Bertrand.
Voilà, Yann Arthus-Bertrand qu'on va avoir dans un instant pour nous parler de son film Human qui va être accessible pour tout le monde sur un canal YouTube. On y reviendra avec lui. On va également parler des tests dans la deuxième partie à partir de 10h45. À quoi servent les tests? Qui y a droit? Quelle différence? On va parler également des cliniques privées qui disent venez chez nous. On a des endroits sécurisés pour vous recevoir et il faut, et c'est pas vous payerez pas plus cher. Et puis on verra, on fera le point sur la collaboration qu'il y a pu y avoir entre le privé et le public pendant l'épidémie du Covid. Voilà, on va commencer avec les audiences d'hier soir et puis vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez nous dire, nous raconter ce que vous avez vu hier soir. C'est France 2 qui est arrivé en tête des audiences, 5 091 000 téléspectateurs, 19,2% de part d'audience pour la fin de Meurtre au Paradis. C'est 200 000 plus que la semaine dernière. À signaler TF1 qui est arrivé en de seconde position, 3 675 000 téléspectateurs pour la diffusion, la rediffusion, la rediffusion du film Les Trois Frères. C'est quand même 2 800 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière avec la fin des Bracelets Rouges. Donc c'est vrai que c'était... c'est, bon, peut-être que c'était un film que les gens avaient vu... trop vu. Sonia est en ligne. Bonjour Sonia.
Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi.
Bonjour. Oh, on vous écoute.
Oui. Oui, alors,
vous étiez en train de faire la cuisine?
Moi, ça m'intéresse. Pardon?
Vous étiez en train de faire la cuisine?
Non, je suis partie dans la salle de bain.
Ah bon, d'accord.
Oui,
on va tout savoir. Alors, vous avez regardé quoi, vous, hier?
Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Les secrets d'histoire pour Sainte Thérèse de Lisieux, voilà. Et alors, ça vous a plu? Pourquoi vous avez choisi de regarder ça?
J'aime bien Secrets d'histoire. J'adore l'histoire sous toutes ses formes. Ouais. Et chaque fois, je regarde Stéphane Bern, il présente très bien. Enfin, il s'est très bien présenté l'émission. Et l'histoire de Sainte Thérèse, j'avais lu un peu en lisant un livre sur Edith Piaf, et qui avait été aveugle de naissance et après elle a recouvré la vue grâce aux prières des femmes qui ont prié Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc cette odeur de rose, alors dans le livre ils en parlent souvent de cette odeur qui se propage, cette odeur de rose lorsque on prie Sainte Thérèse. Et cela, j'aime bien l'histoire, voilà, tout court.
Bon, bah écoutez, ça a plutôt pas mal marché. France 3 est arrivé en troisième position avec 2 452 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience, 700 000 de plus que la semaine dernière, que le précédent Secret d'Histoire. Donc, c'est un sujet qui a vraiment intéressé les gens. Merci de nous avoir appelés, Sonia. Vous pouvez repartir dans votre salle de bain. Régine est en ligne avec nous. Régine de Soulac, bonjour.
Bonjour à
tous
les deux.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour.
Très bien, je vous remercie. Alors moi, par contre, j'ai décidé de regarder Meurtre au Paradis pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'adore tout ce qui est policier. D'autre part, c'était le dernier épisode de la saison 9.
Oui, absolument.
Et donc, j'ai pas été déçue, c'était super. C'est parce que, en plus, c'est très bien parce que ce sont des petites enquêtes d'une heure. C'est mené rondement. Mais si vous voulez, en plus, ça a un avantage énorme en ce moment. C'est les paysages, les décors. Alors, comme on est confiné, qu'on en rêve tous, c'est un petit voyage, je dirais gratuit. Mais enfin, vraiment, ça détend.
Oui, ça vous fait voyager.
Plus, l'ambiance était extraordinaire, quoi. C'est parfait. Impeccable.
Eh ben écoutez, ça a plutôt pas mal marché, je le disais, hein, c'est arrivé en tête hier, donc je pense qu'on a besoin effectivement de ces jolies images, Rémi Pernellet me signale que Secret d'Histoire, c'est le deuxième meilleur score de l'année pour l'émission.
Mais c'est grâce
donc,
à nous, ça.
Très bon score, voilà, parce qu'on a eu Stéphane Bern. Mais merci Régine de nous avoir appelé. Mon beau-père, mes parents et moi sur M6, 2 085 000 téléspectateurs, même score pratiquement que la semaine dernière. Et puis à signaler sur Arte, Oui, à signaler sur Arte, Un mauvais fils, très bon film avec Patrick Devers, 1 454 000 téléspectateurs, 5,7% de part d'audience. Le Parisien aujourd'hui qui consacre un article justement au retour de la nostalgie en cette période de confinement avec, on l'a dit, les films de Funès qui marchent bien et puis les films de l'après-midi sur France 2 également. Très bonne idée de remettre tous ces films patrimoniaux. 2 601 000 hier pour les Misérables. Cyril Hanouna, sinon, dans les access, bah, ça ne remonte pas. Hein. 695 000 téléspectateurs, quotidien, bonne forme, 1 807 000, voilà, ça c'est l'access. Et puis, on aura peut-être les audiences du Bureau des Légendes dans quelques temps. On n'a pas les mêmes, on n'a pas tout de suite les audiences de Canal+. Non, on les a, mais sur un autre truc. Enfin bref, avec des déceptions, j'ai pu voir ici ou là, et des proches à moi qui ont regardé, ont trouvé que c'était les artistes étaient remarquables, mais que l'histoire était un peu cousue de fil blanc et pas très...
Désormais, c'est votre famille qui fait des critiques.
Non, mais je vous dis, ben moi je vous dis, des fois j'ai regardé ça, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Voilà, non, et puis j'ai vu des réactions hier sur Twitter de gens qui étaient assez déçus. Patrick Chen, notre ami Patrick Chen, qui a tweeté en disant qu'il était déçu par cette dernière saison du Bureau des Légendes. Voilà.
Et ben moi j'ai regardé La Cage aux Folles sur Paris Première. Qui
ah était bon
la Cage aux Folles 2 et la Cage aux Folles 1. Bah, le film
c'était
de Jean Poiret.
Le film, d'accord, parce qu'il y a eu des pièces.
Oui, il y a eu la
aussi,
pièce. Non, j'ai regardé le film, je suis tombé dessus. Ça m'a amusé, ça m'a permis de me détendre.
Bon. Et Rémi Pernelet a aussi été très déçu, me dit-il, par les épisodes réalisés par Audiard. Effectivement, c'était les deux derniers étaient réalisés par Audiard. Et déception.
Bien, écoutez, je vais appeler mes cousins pour voir s'ils ont un avis aussi.
On est tous des téléspectateurs, on n'est pas des spécialistes du truc. Non, mais alors, vous l'avez regardé, vous ne l'avez pas regardé, le Bureau des Légendes?
Non, j'ai jamais regardé le Bureau des Légendes, jamais été accroché.
On va passer au zapping, on a pris du retard.
Allez. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, c'était le jour J où désormais, vous savez, il n'y a pas que les héros de Marvel qui sont masqués, mais désormais tous les Français vont l'être. BFM a été filmé un supermarché à son ouverture à Strasbourg.
La caisse est devenue un lieu crucial. C'est ici que sont vendus les masques, avec ses consignes d'utilisation.
Oui, je suis contente, ça me rassure.
Je remercie la caissière de m'en avoir proposé.
Donc, faut savoir qu'un masque, ça tient 4 heures. Après 4 heures, il faut le changer. Hein.
Des paquets de 10 masques chirurgicaux sont distribués ici dans la limite d'un paquet par client passé en caisse.
On est venu spécifiquement pour les courses et puis également pour les masques aussi. C'est important d'en avoir et il devrait être offert normalement.
Et justement, puisqu'on parle d'argent, hier, Michel Pierrot, c'est le PDG de l'enseigne Lidl. Il était l'invité de C'est à vous. Et il a vendu tous ses masques. Écoutez bien, Valérie, le chiffre hallucinant du nombre de masques vendus en 24 heures.
À l'heure qu'il est, nous n'en avons plus. Effectivement, nous avions que 100 000 boîtes de 50 masques, donc 5 millions de masques.
Et vous avez vendu 5 millions de masques ce matin?
Tout à fait.
À quel prix?
Alors, nous vendions la boîte à 30 euros, donc 60 centimes le masque, c'est-à-dire à prix coûtant.
Voilà, 5 millions fois 30 euros, et ça s'est vendu en 24 heures, 5 millions. Alors, cela fait pas que des heureux, vous vous en doutez, Valérie, et la colère monte, comme celle de Denis Jacquin, un entrepreneur qui ne croit pas au prix coûtant des grandes surfaces. Il en a parlé hier sur CNews.
Aujourd'hui, on dit, nous, l'État français, on va vous permettre de payer un masque à 95 centimes, c'est son prix coûtant. Mais la plupart des gens qui les ont achetés comme Intermarché, comme Leclerc et d'autres, par 30 ou 40 millions, les ont payés de toute façon, il y a deux mois, à moins de 20 centimes. Donc à 95 centimes, si vous voulez, l'affaire est super belle. Moi, j'adorerais être Intermarché aujourd'hui et que les gens soient malades et que je puisse en profiter.
Juste une chose, il y a le transport aussi hein, dans les masques. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a le transport, le dédouanement, etc. Donc on peut dire, et puis le prix a beaucoup enchéri. Je ne défends pas les grandes surfaces ni qui que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a, faut pas, le prix coûtant, ça comprend un certain nombre de choses.
Bien sûr. Il y a une enquête à faire et à regarder. Hier au Sénat, Claude Malhuret, député de la République des Territoires. Non, j'ai fait très attention, donc ne me reprenez pas. Donc député de la République des Territoires et des Indépendants. Alors il a été très drôle, hein, il a ironisé sur les experts qui s'expriment à tout va, un moment magique au Sénat.
Confiner ou ne pas déconfiner, telle est la question. Je suis fasciné de découvrir que nous avons autant d'experts pour y répondre sur toutes nos chaînes de télévision. les grands experts très assurés, les petits experts qui manquent d'expérience sur Zoom et dont on ne voit que le nez, le menton et les lunettes en gros plan, les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio, et enfin les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le buzz. À force de tous les regarder, j'ai découvert un théorème que je vous propose. Plus il y a d'experts, moins on comprend.
Voilà. Moi, mon
on
expert
en reparlera
préféré,
à 11h, on va en parler.
Oui, moi, mon expert préféré, c'est Valérie, voilà. Évidemment.
Voilà. Donc, on y reviendra à 11h.
Une star dans... une conseillère. Voilà, je me retrouve.
Vous êtes perdu dans vos papiers.
Voilà, c'est bon. Hier Quotidien s'est livré à un petit exercice. Ils ont compilé tout ce que va devoir faire un enseignant qui doit appliquer dès le 11 mai le protocole sanitaire. Vous savez qu'il fait 54 pages. Alors, je vous ai réduit, mais parce que l'intervention faisait 2 minutes, mais ça donne un petit côté florilège de tout ce que doit faire un enseignant. C'est ubuesque.
L'enseignant a préparé sa classe, veillé à ce que tout le matériel ait été désinfecté, portes, tables, chaises, mobilier, et aéré la pièce pendant 15 minutes. Il met son masque, la classe peut enfin commencer. Le petit Kylian éternue, il faut l'accompagner, se laver les mains une nouvelle fois. Si l'un d'eux veut aller aux toilettes, le prof doit gérer les flux d'élèves entre la classe et les toilettes, s'assurer que les urinoirs utilisés sont distants d'au moins 1 mètre, superviser une nouvelle fois le lavage des mains avant et après.
Ça va être compliqué. Il a plein d'activités comme ça.
Il y a 62 pages qui ont été envoyées aux enseignants. Vous êtes appliqué pour dire député, Gilles, sauf qu'il est sénateur, Claude Maluret.
Voilà. C'est un député de la République.
Oh là là,
député, c'est qu'à l'Assemblée.
Ne dites rien, il est sénateur. Il y a le Sénat et il y a l'Assemblée, d'accord ?
D'accord, maîtresse.
Ne dites rien. Ne dites rien. À suivre.
De toute façon, je savais que vous alliez me reprendre. J'en avais parlé avec le réalisateur. Mais j'aurais dû dire sénateur. C'est... Voilà. Pour finir, évidemment, on se taquine. On se connaît bien, Valérie, pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on est le 5 mai 2020 et c'est une date historique pour Pierre-Jean Chalençon.
Le 5 mai 2020, 199e anniversaire de la mort de Napoléon Ier. Soyez vigilants. Une dernière semaine de confinement, espérons. Et puis, il faut avoir le moral, il faut avoir l'esprit conquérant, l'esprit vainqueur. Vive la République, vive la France, et tout mon soutien au président de la République.
Voilà, et comme ça, il fait un clin d'œil à Macron qui le soutient. Voilà, c'était le zapping, madame.
Voilà. Merci Gilles, sénateur, député. Il faudrait que vous revoyiez vos leçons, que vous retourniez un petit peu à l'école. On est en ligne avec Yann Arthus-Bertrand, bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci.
Bonjour. Comment allez-vous, Yann Arthus-Bertrand ?
Il était drôle,
Ah, super, super. Je vais reprendre ça sur mon blog, c'est génial.
Écoutez-le jusqu'au bout. La séquence dure 4 minutes et c'est vrai que c'est écrit avec beaucoup de... C'est très bien écrit. Comment allez-vous ? C'est la première question qu'on pose aux gens. Vous êtes avec nous, on vous voit. C'est pour ceux qui ont le Facebook,
sur
le Facebook de Sud Radio. Voilà. Comment allez-vous, Yann Arthus-Bertrand ? Où êtes-vous confiné ?
J'ai attrapé le virus la première semaine, j'ai été bien fatigué, j'ai perdu 6 kilos, mais tout va bien, tout va très très bien, j'ai pas eu de fièvre, voilà, donc c'est comme j'avais plus de goût du tout, je prenais une cuillère de moutarde, je sentais rien, c'était assez spectaculaire, voilà, mais j'ai repris complètement mes forces, voilà, tout va bien.
Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré une semaine, et bien 15 jours pour me remettre d'aplomb, mais bon, c'était vraiment très très bénin par rapport à d'autres personnes.
Oui, il y a eu beaucoup de formes très très différentes d'après ce qu'expliquent les médecins. Alors, parlez-nous donc de cette initiative, de votre volonté de rendre en accès libre votre film Human. C'est un film remarquable qui, en cette période de confinement, peut faire beaucoup de bien. On parlait tout à l'heure d'images qui faisaient du bien à la télévision. Là, ce sont des images remarquables et puis avec un propos surtout. Je vous laisse nous en parler. Vous en parlerez mieux que moi.
Oui, on a été très déçus que le film Woman, que j'ai fait avec Anastasia Mikova, a été arrêté en plein vol à cause de cinéma confirmé. Donc on s'est tourné, on a trouvé une idée et on a mis la version cinéma de Woman, qui est pour moi notre meilleur film, qui parle de pardon, qui parle du sens de la vie, qui parle des choses importantes. C'est vraiment un film important et avec, je pas à cause de moi, mais à cause parce que les gens nous ont donné de formidables. Il y a les deux making-of. Il y a un making-of sur la musique qui est génial. Comment est-ce qu'on fait la musique avec Armand Amar, qui est mon meilleur ami? Comment on fait la musique d'un film? C'est vraiment intéressant. Puis aussi le making-of du film, les petites histoires derrière le film. Ça s'appelle Woman Cinema. Ça dure 3h10, donc c'est très très long. Mais sincèrement, ouais, je pense que voilà, tous les gens qui le voient, d'ailleurs, envoient les commentaires sur YouTube, c'est assez formidable. Et je suis ravi qu'on a réussi à faire ça. Voilà.
Il faut dire que oui, c'est un film assez magique, hein, Valérie. On est pris, et c'est un long voyage qu'on fait avec tous ces témoignages, ces paysages. Est-ce que vous pensez que ce film ressemblerait à la même chose si vous l'aviez fait après le confinement ?
Oui, je pense, parce qu'on parle de valeurs intemporelles. On parle de pourquoi est-ce qu'on fait la guerre, c'est quand même des questions assez essentielles. Est-ce qu'on est capable de pardonner? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de recevoir les réfugiés? Pourquoi l'homophobie? Voilà, des choses assez essentielles. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Même si aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais qu'on se souvienne de ces moments de confinement. Je pense qu'on a tous un peu plus d'humanisme en nous. On a tous applaudi avec les infirmières, on a tous pris conscience qu'il y avait des gens qui sauvaient des vies, que nous, on était un peu confinés en sécurité. On a tous pris conscience, par exemple, qu'on pouvait manger, consommer que l'essentiel et que ça nous suffisait, en fin de compte. On n'était pas si malheureux que ça. Voilà, on appelle les amis, faire l'école à ses petits-enfants, c'est pas facile. Voilà, tout ça, je trouve que c'était un moment, bien sûr, économiquement très compliqué pour beaucoup de gens, mais pour moi, assez riche, en fin de compte. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé. Voilà, c'est vrai que les experts, on comprend plus rien. Je supporte plus les... Je regarde même plus les actualités parce qu'on est complètement paumé, complètement dans des... On n'a aucune information fiable. Voilà, mais c'est un moment pour moi important. Puis j'ai appris à faire du pain. Je fais du pain tous les matins.
Voilà. Formidable.
Et c'est drôle parce que je fais à manger pour mes enfants, mes petits-enfants, et tout le monde me remercie, alors que ma femme l'a fait pendant 30 ans sans pas l'armée.
C'est l'injustice, voilà. L'injustice totale. Quel est le point commun à tous ces humains? Qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, de ce premier film?
Sans doute, alors peut-être que, en comptant les morts tous les soirs à la télévision ensemble, on s'est peut-être aperçu la fragilité de la vie, quoi. Et que notre bien le plus précieux, c'est la vie de la nôtre et ceux de, voilà, les gens qu'on aime. Je pense que dans Human, il y a une femme qui dit « j'aimerais mourir avec le sourire ». Je trouve ça tellement intelligent, tellement brillant de savoir qu'on va tous mourir un jour, il faut l'accepter, il faut faire de sa vie quelque chose qu'on ne va pas regretter, quoi, qu'on va assumer sa vie et donner du sens à sa vie. La vie, elle n'a aucun sens, en fin de compte. Et c'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et c'est ce film, il parle de ça. Je voulais vous parler d'un livre formidable que j'ai lu, qui s'appelle Bergère des collines. C'est un livre d'une bergère, je ne la connais pas, elle m'a envoyé, on reçoit beaucoup de livres, elle m'a envoyé ce livre, et c'est l'histoire d'une bergère dans la garrigue qui explique sa vie, et elle ne parle que de moutons, que de paysages, que d'agnelage, que de trouver de l'eau, trouver de l'herbe. C'est un livre qui fait du bien, et je pense que c'est une grande, un écrivain qui est né, qui est formidable. Bergère des collines, qui s'appelle Florence Robert, je ne la connais pas, aux éditions Corti. Ouais. Et puis je voulais dire aussi que je regarde les lives de M, de Mathieu Chédid, et c'est assez formidable. Oui.
C'est ce que vous faites. Et vous l'aimiez avant ou vous l'avez découvert pendant ce confinement?
Je le connais un petit peu parce qu'il est assez écolo, mais je trouve que ce type a une espèce de générosité incroyable avec les gens. Voilà. Il peut faire des lives de plusieurs heures, il répond à tout le monde. C'est vraiment un artiste généreux. Et c'est vrai que dans ces moments compliqués pour les artistes, vous allez en parler tout à l'heure, à tous les festivals qui s'annulent, il en parle bien. Et si vous voulez, Moi, j'aime les gens qui n'ont pas trop de cynisme, de scepticisme et qui aiment les autres. Voilà, je pense que Human, ça parle de ça, quoi. Aimer plus les autres. Et dans ce monde de demain... Oui, allez-y.
Oui. Non, allez-y. Et dans ce monde de demain, ça va être plus important que jamais. Mais est-ce qu'il peut, à votre avis, en sortir du bon? Parce qu'effectivement, tout le monde, et c'est ce qu'évoquait aussi Claude Malhuret, évoque le monde d'après. Est-ce qu'on sera forcément meilleur après? Non, pas forcément.
Vous savez, je suis pas un futurologue. Il y a trop de gens qui parlent du monde d'après d'une façon préemptoire. Je suis comme vous, je me pose des questions. Je pense que ça va être difficile économiquement et que malheureusement, il y a des gens qui vont se retrouver sans boulot. Voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà,
mais ça doit vous faire plaisir.
En ce moment, il faudra beaucoup plus de solidarité, de plus en plus. Voilà.
Mais ça doit vous faire plaisir, par exemple, de voir que finalement, on se rend compte que pour les petites distances de moins de 2 heures ou 2h30, on n'a pas besoin d'avion.
Oui, mais alors là, ça, c'est évident que c'est... Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion déjà il y a 6 mois, donc quelque part, non, mais moi, j'avais pris beaucoup, beaucoup l'avion. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le train va revenir vers le train. Et j'écoutais hier Jean Covici, qui est un expert formidable sur les... Voilà, et qui expliquait que sans doute qu'Air France, enfin, qu'Air France peut-être s'engage dans le train, voilà, et qu'on va demander à Air France de mettre... qu'il n'y ait plus d'avions en France, que ce ne serait pas idiot d'ailleurs, et que par contre, Air France peut-être s'engage, à, puisque maintenant, vous savez que c'est ouvert le marché européen, que SNCF n'est pas prioritaire. Et c'est une bonne idée, je trouve. Voilà.
Un mot sur Woom. Ouais.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est en train, pour un écolo, c'est le rêve absolu. Il y a le silence, on entend les oiseaux, des circuits courts, voilà. Puis je voulais dire aussi une chose, et j'ai découvert, alors peut-être que vous connaissiez tous avant, c'est qui le patron, et j'ai pas mal discuté avec cette coopérative qui vend le lait. Et je trouve que acheter du lait à un prix inférieur au prix de revient des paysans, c'est une honte et un scandale. Et je pense que le monde de demain, on va payer le vrai prix aux paysans. C'est scandaleux que le prix mondialisé, mais qu'un paysan se suicide tous les 2 jours, c'est honteux. Voilà. Et je pense que c'est à nos consommateurs de faire des efforts. Et c'est qui le patron ? C'est vraiment une marque formidable. Entre autres, il y en a d'autres.
Mais c'est ça, c'est parti de ce constat-là en demandant aux consommateurs ce qu'ils voulaient avoir. Et ils sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits de qualité qui rémunèrent au juste prix les producteurs de lait. Enfin, pas que de lait d'ailleurs, ils font beaucoup, beaucoup de produits. Woman, vous savez quand est-ce que ça ressortira en salle ? On attend le retour.
On va sans doute le mettre en VOD, je pense, en juin. On va voir, parce qu'il va y avoir un tel embouteillage à la rentrée sur les films. Je ne sais pas. C'est vraiment le producteur, le distributeur qui va décider ça. Et voilà, Apollo, qui est vraiment un très bon distributeur. On va voir. Et puis, je vous attends tous aussi quand la Fondation Good Planet va rouvrir, hein, parce qu'on a vraiment
absolument
hâte.
Absolument.
On viendra vous voir.
On a fait un escape game sur le carbone. On a fait une école de cuisine. Quoi. On a vraiment fait un truc formidable. Ça tombe vraiment mal. Et j'espère. Vous savez que c'est un endroit qui est gratuit, ouvert à tous, où on parle d'écologie humaniste, toujours avec bienveillance et gentillesse. Voilà.
Merci beaucoup, Yann Arthus Bertrand. Brigitte, une auditrice, a mis le lien du YouTube pour retrouver gratuitement donc votre film Human, qui est un film qui vraiment mérite d'être vu et qui fait du bien en ce moment. Merci d'avoir été avec nous, Yann Arthus Bertrand. Profitez
bien
de vous.
Regardez bien la version Human Cinéma.
La version cinéma,
c'est ma version préférée. Voilà. Je vous
très bien, merci. On vous embrasse bien fort. Et puis, merci à vous. Merci, Yann Arthus Bertrand. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On va parler art, on va parler test. Et puis, on va parler de nos cliniques privées. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, comment soutenir les artistes en cette période de confinement, cette période de crise ? On va parler des tests, les différences entre les différents tests. Et puis les cliniques privées lancent un appel aux patients. Venez chez nous, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid. On y reviendra dans un petit instant. Quelques infos avec Gilles.
Oui, Valérie,
sur notre journal de solidarité.
Je voulais surtout vous en donner une pour les gens et pour les particuliers qui ont des difficultés à payer les factures d'eau. Un dispositif a été mis en place par le Centre d'information sur l'eau et des aides ont été mises en place pour aider les foyers qui sont en fragilité financière et dans des situations précaires à ne pas avoir de facture ou avoir des aides pour régler leurs factures d'eau. Alors pour cela, il y a le CIEAU. Alors il faut aller sur le site internet ça s'appelle CIO, donc CI est suivi de O, E-A-U, qui propose, vous verrez, des guides pour mieux comprendre les dispositifs d'aide au paiement des factures d'eau, au fonctionnement et puis également obtenir des aides pour que ces factures d'eau soient prises en charge. Voilà la petite info de solidarité que je voulais vous donner ce matin. Si vous avez des problèmes pour payer vos factures d'eau,
donc C-I-E-A-U,
E-A-U comme O.fr, voilà.
D'accord, merci Gilles. On se retrouve demain. On est en ligne, nous, avec Samuel Charmettant. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Bonjour, vous êtes le directeur et le cofondateur de Art Majeur. C'est la première plateforme européenne de vente d'art en ligne. J'avais envie de vous entendre ce matin, d'abord pour nous parler de cette initiative assez originale, et puis pour parler des artistes. Aujourd'hui, les galeries sont fermées, très compliqué pour eux aujourd'hui d'arriver à se faire connaître, à se faire voir et surtout à vendre.
Bah oui, en fait, c'est une situation qui est vraiment tout à fait exceptionnelle pour les artistes, puisque là, il y a tous les lieux d'exposition classique qui sont fermés, que ce soit les galeries, les expos, les salons, et même les bars où parfois des artistes exposent, les MJC, enfin, tout, absolument toutes les lieux où ils exposent d'habitude sont fermés, et c'est tout à fait exceptionnel. Actuellement, Internet est le seul endroit où les artistes peuvent montrer leur travail et vendre. Et donc, nous, c'est notre secteur, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on aide les artistes et les galeries à vendre. Donc, on a vraiment essayé de se demander, on s'est demandé comment être utile pour les aider. Et c'est dans ce cadre qu'on a, du coup, décidé de vraiment mettre en place cette campagne, qui est vraiment une campagne de solidarité. D'ailleurs, j'entendais votre collègue qui parlait de solidarité pour l'eau ou de Yann Arthus-Bertrand. Oui. On est vraiment dans cette idéologie de la solidarité avec les artistes.
Oui. Voilà. Oui, dans cette démarche. Déjà un mot sur votre plateforme, puisque c'est assez original. Qui sont les artistes? Combien d'artistes est-ce que vous mettez en ligne? Et qui sont les acheteurs? Il faut pas dire à nos auditeurs aussi de Sud Radio que l'art n'est pas forcément très cher.
Non, absolument. Donc en fait, on est une plateforme extrêmement ouverte. On a 160 000 artistes du monde entier. C'est une plateforme qu'on a créée en fait avec un principe fondateur qui était d'aider les artistes à vivre de leur art. Et vraiment tous les artistes, on a des artistes qui sont célèbres, qui sont connus, qui sont en galerie, et on a des artistes inconnus qui ne sont pas en galerie. Et en l'occurrence, la campagne qu'on est en train de, dont on parle, c'est la campagne donc Artist Support Pledge. C'est un hashtag pour les réseaux sociaux. Le principe, peut-être j'en dis un mot, donc c'est une campagne où les artistes s'engagent à poster des œuvres à 200 euros ou 200 dollars. Et au moment où ils ont vendu 5 œuvres, ils s'engagent solidairement à acheter eux aussi une œuvre à un autre artiste. Donc on est vraiment dans un élan de solidarité. Et donc on a vraiment mis toute notre plateforme au service de cette démarche. Donc Art Majeur, c'est jusqu'à 1 million de visiteurs par mois. Donc on a vraiment essayé de pousser cette action solidaire. Les artistes sont vraiment acteurs de leur démarche. Et donc c'était quelque chose qui a commencé en Angleterre et aujourd'hui c'est complètement international. On a des clients à Hong Kong, au Koweït, en Allemagne, au Brésil. Et ce qui est très frappant justement, c'est que bon, bien sûr pour cette campagne on abandonne totalement notre commission de vente et on offre également les frais bancaires quand il y en a. L'idée c'est vraiment que les artistes qui sont actuellement coincés dans le confinement gardent le pied à l'étrier et profitent justement de cette exposition et de ce moment pour se mettre à l'intérieur du site. Absolument. Et en fait, on a vraiment un retour qui est exceptionnel de la part des artistes.
Oui, ce que j'allais vous demander, vous avez beaucoup de ventes. Comment ça s'est passé depuis que vous avez lancé cette opération?
Alors, en fait, au début, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'actions qui se lançaient pour les soignants, pour pas mal de professions. Et pour les artistes, par contre, il y avait rien. Et là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est vraiment l'aspect solidaire, le fait qu'on ne demande pas aux artistes de donner des œuvres, mais que vraiment, il s'agit de vendre des œuvres. Pas forcément des œuvres qui sont très chères. Comme ça, on fait un truc qui est vraiment disponible pour tous les budgets. Et les artistes jouent le jeu. Il y a des artistes qui ont des œuvres qui sont à 800 euros, 1000 euros, qui les descendent à 200 euros pour faire partie de la campagne. Et là, en quelques semaines, ça fait 2 semaines là qu'on est vraiment dessus, on a plus de 10 000 œuvres qui sont maintenant disponibles à 200 euros sur la plateforme, pour lesquelles on prend aucune commission. Ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment, en dehors de l'aspect, promotion et achat commercial, du coup, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait totalement gratuitement, on a vraiment Là, je lis des commentaires, on a des centaines de commentaires des artistes du monde entier. Des artistes qui disent « j'aime cette good vibe, je rejoins le mouvement, la solidarité est contagieuse ». On est vraiment dans une dynamique très positive. Fait vraiment plaisir, quoi.
Est-ce que vous pensez que l'avenir est justement Internet pour les artistes? Alors, on a besoin de voir les œuvres, évidemment, en galerie, mais c'est un complément, en fait, de pouvoir, de chez soi, à la fois pour les artistes, se faire connaître ou vendre sur Internet et pour les particuliers, les collectionneurs, d'avoir un accès beaucoup plus facile à un plus grand nombre d'artistes.
Absolument, tout à fait, puisque d'une part, nous on bosse avec les artistes et également les galeries d'art, mais c'est vrai qu'une galerie, de toute façon, elle va être quand même limitée par son emplacement physique et par le passage qu'il y a dans sa rue. Sur Internet, ce qui est extraordinaire, c'est que quel que soit le type de travail, que ce soit des œuvres, des peintures, de n'importe quel style, le public se trouve quelque part sur la planète. Et enfin, des plateformes comme la nôtre permettent de trouver ce public. Après, on a tout un tas d'outils qui permettent de localiser, de filtrer, pour vraiment arriver à exactement trouver les œuvres qui nous plaisent. Mais c'est sûr que sur Internet, le public se trouve. On a plein d'artistes qui sont dans des petits villages, que ce soit à côté de Montpellier, ou comme on rigole toujours en disant qu'il y a des artistes à Ushuaïa, et ces artistes vendent dans le monde entier parce qu'ils trouvent leur public.
Ouais. Après, et si je veux vendre, moi, si je suis artiste, comment je fais pour je peux vous contacter si je veux vendre mes toiles?
Absolument, l'inscription est totalement gratuite et illimitée. On prend, nous, de manière générale, une commission sur les œuvres. C'est cette commission qu'on offre dans le cadre de la campagne Artist Support Pledge. Mais l'inscription est très très simple, très facile. Vous pouvez charger toutes vos œuvres. Après, que ça marche, il faut quand même faire une démarche professionnalisante avec des belles photos, une belle description. C'est quand même très important parce que contrairement à la présentation en galerie, sur Internet, les clients n'ont que ce que vous présentez pour vraiment comprendre votre travail.
Alors, on rappelle le nom de votre galerie, donc c'est sur Internet, ça s'appelle Art Majeur, donc il y a vraiment de tout, hein. Il y a de la photo, du contemporain, du figuratif, même de la sculpture, donc il y a vraiment,
absolument.
Je suis allée voir, c'est assez formidable. Ouais. Et puis donc cette campagne solidaire pour aider les artistes avec le hashtag Artist Support Pledge.
10 000 œuvres, n'hésitez pas.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Samuel Charmettan. C'est bien de faire un coup de projecteur sur les artistes, sur l'art en général et sur le fait, évidemment, que les galeries étant fermées, on peut toujours se procurer, même sans acheter, aller faire un tour pour voir. Il y a des choses absolument exceptionnelles. Merci à vous.
Ça fait plaisir.
Merci d'avoir été avec nous. Tout autre chose et sans transition, docteur Bertrand Legrand, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin à Tourcoing. On vous avait eu en ligne il y a quelques semaines pour parler des tests. Vous aviez fait un post qui avait été assez remarqué sur les tests. Moi, j'avoue que je ne comprends pas grand-chose aux différents tests. Celui qui est le test sanguin, celui qui se fait avec les écouvillons dans le nez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents tests qui existent et leur utilité et leurs défauts? Avantages, inconvénients.
Oui, c'est très simple. En réalité, donc les tests sanguins sont des tests qu'on a dit sérologiques. Ils permettent de détecter des anticorps, donc vos moyens de défense. On a deux types d'anticorps, les IgM et les IgG. Ça commence toujours par avoir des productions d'IgM, puis après on a des IgG qui vont se mettre en place. Le problème de ces tests sérologiques, comme l'a relevé la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, c'est que les IgM commencent à apparaître à partir du 7e jour pour disparaître aux alentours du 28e jour, alors que les IgG vont commencer à apparaître à partir du 14e jour, et on espère qu'elles restent dans le temps, mais on n'en est pas sûr. Et donc du coup, ces tests sérologiques n'ont pas d'intérêt en termes de pour permettre d'isoler des patients symptomatiques, puisque je vous rappelle que les patients sont contagieux entre le premier jour et le 21e jour. Donc on rate dans ces tests sérologiques le patient quand il est contagieux. Donc ça ne nous sert pas à éliminer la contagion. Ça nous sert juste à faire des statistiques pour savoir combien de personnes ont été touchées par le virus. Mais en fait, c'est pas combien de personnes ont été touchées par le virus, c'est combien de personnes ont développé des anticorps après avoir été touchées par le virus. C'est une autre question.
Donc, ce test. Mais est-ce que c'est pas important, ça? Est-ce que c'est pas important de le savoir?
C'est important de suivre une cohorte. Tout à fait. C'est très important dès le début. On aurait dû, donc dès le mois de février, on aurait dû faire une cohorte en population générale avec une.
Une cohorte, ça veut dire une sorte de panel de patients.
C'est ça. Établir la certitude que le patient a bien eu le Covid avec un scanner, avec différents tests, et voir combien vont développer réellement des IgG, combien vont développer réellement des IgM. On s'est posé cette question avec 2 mois et demi de retard, donc c'est pitoyable.
Mais c'est important quand même, ce que vous dites, moi, m'étonne, parce que je me disais, tiens, moi, je voudrais bien savoir, j'ai eu des petits symptômes, est-ce que j'ai eu le virus? Du coup, si je l'ai eu, je peux plus le rattraper, a priori.
Eh bien non, en fait c'est là que c'est dangereux, parce qu'en réalité les gens pensent comme vous qu'une fois qu'on l'a attrapé, on peut pas le réattraper. La réalité de la science aujourd'hui, c'est que un, on ne sait pas pendant combien de temps vont durer vos IgG qui sont sont censés être efficaces, et deux, on ne sait même pas si elles sont efficaces contre le virus. Donc ça pose deux problèmes. Et on va surrassurer des gens qui sont qui se croient sans danger, alors qu'en fait ils peuvent très bien le rattraper une deuxième fois. Donc c'est très embêtant de faire croire ce genre de choses-là à une population générale. Donc les tests sérologiques clairement n'ont pas d'indication pour le patient. Ils ont une indication en termes de recherche épidémiologique, mais sûrement pas en termes cliniques.
Donc c'est assez incroyable parce qu'on voit des entreprises qui sont en train d'essayer d'acheter des tests justement pour tester leurs salariés, pour voir s'ils ont eu le virus, si, etc., s'ils sont contagieux. Parce que même, je voudrais juste revenir sur le test qu'on fait avec les écouvillons dans le nez. Il faut être très précis dans la période à laquelle on fait ce test. Parce qu'on peut être contagieux, on peut être positif un jour et pas l'être la veille, ou c'est ça?
Vous avez tout à fait raison. Pour finir sur les tests sérologiques, oui. Effectivement, ils ne servent qu'à acheter la paix sociale. C'est uniquement ça, c'est pas de la médecine, c'est de la paix sociale. Donc moi, je le mène d'emblée. Pour ce qui est des tests PCR, ce sont des tests donc qui sont de dépistage et non pas des tests de diagnostic. Je ne fais pas un test PCR pour établir un diagnostic. Le diagnostic, il est clinique. Vous voyez votre médecin traitant vous dit « vous avez le Covid », on s'arrête là. Vous avez le Covid. Maintenant, si vous devez être hospitalisé parce que vous avez des signes de gravité, on fera sûrement un scanner, on fera d'autres tests pour le confirmer de manière scientifique. Mais ça n'a pas d'intérêt en pratique de ville de confirmer un diagnostic Covid. Et on doit isoler la personne dès qu'elle est symptomatique parce qu'elle est déjà au cinquième jour à ce moment-là. Le test PCR, lui, des caractéristiques qui lui sont propres, qui fait que si on teste avec écouvillon des gens qui sont malades, on va avoir un nombre de faux négatifs important et plus important que si on les teste, le même test en population générale. Donc la bonne utilisation d'un test PCR, c'est dans une prévalence, donc dans un échantillon où il y a peu de malades, pour dépister des malades qui s'ignorent. Donc c'est vraiment à utiliser quand le malade est asymptomatique.
Mais comment vous comprenez le discours politique? On a Édouard Philippe qui nous dit qu'il va pouvoir tester 525 000 contacts par semaine. Ça vous paraît possible? Et pourquoi cette déclaration pour rassurer la population?
Tester 700 000 personnes, puisqu'il n'a pas annoncé 525 000, mais il a annoncé 700 000 tests, une capacité de 700 000 tests. On est capable de tester 700 000 tests. Le seul blocage, c'est un blocage en nombre de prélèvements. Et donc, il faut mettre en route une armée de médecins généralistes et d'infirmiers pour faire des prélèvements et non pas mettre en route une armée d'administratifs pour déterminer peut-être que au bout du huitième jour, on va décider de faire un test qui lui-même donnera un résultat deux jours après, c'est-à-dire quand la personne a terminé de contaminer tout le monde. Le plan du gouvernement, avec cette armée qui va chercher les cas contacts, a déjà échoué en phase 1 et en phase 2. Elle nous a amené à un confinement qui a duré, je ne sais même plus combien de semaines, tellement on l'a mis dans le bidon, et qui nous a fait perdre des centaines de milliards d'euros. Est-ce qu'on veut recommencer cette même erreur, qui est une erreur franco-française, qui n'est pas réalisée dans les autres pays? Et dans les autres pays, ils font des tests massifs. En France, on veut avoir un gouvernement qui nous dit « j'ai un taux de positif qui est le meilleur au monde ». Mais ça, c'est ridicule. Nous, on veut un nombre de tests positifs minimal, mais qui a pris un maximum de personnes. Vous prenez tous les pays qui ont fait des tests massifs, ils ont des taux de positivité qui sont très faibles, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à isoler. Ils isolent les gens avant qu'ils contaminent les personnes. C'est quand même la base de la médecine.
C'est la base. Vous, comment ça se passe dans votre pratique quotidienne?
Depuis jeudi, j'ai décidé de franchir le Rubicon et me suis fourni en test auprès de mon laboratoire qui me donne des tests pour que je prélève mes patients. Je prélève mes patients et je suis capable de faire à peu près une vingtaine de tests. S'il fallait que j'augmente la cadence, je pourrais augmenter la cadence, mais je suis capable très naturellement de faire 20 tests par jour. Si on met en route tous les médecins généralistes, les 700 000 tests par semaine seront faits. Et les premiers retours que j'ai, c'est qu'ils commencent à s'inquiéter de savoir si on aura suffisamment de réactifs. Mais il y a un moment donné où les politiques doivent être responsables. On est capable de faire 700 000 tests par semaine, oui ou non? Est-ce qu'on a des écouvillons? Et je vous rappelle qu'un écouvillon, c'est juste un coton-tige, quoi. C'est-à-dire, si on n'a pas
d'immunité, c'est les réactifs derrière, il y a les réactifs derrière qui, visiblement, ne sont pas forcément là.
Mais il y a trois types de problèmes. Ça. La capacité de prélèvement, je réponds, c'est possible. Il suffit de mettre en route les médecins généralistes. Les écouvillons, franchement, si on en est au stade où on n'est pas capable de produire un coton-tige, faut vraiment se poser des questions. Et le troisième problème, c'est les problèmes du réactif. eh bien, à nouveau, si les politiques sont responsables, ils nous disent quelle quantité de réactifs ils ont, et en fonction, on a des stratégies différentes. On peut mettre en place une stratégie de pooling qui va nous permettre d'utiliser un 1/30 de réactifs pour faire 30 tests. En gros, on va mélanger la moitié de 30 prélèvements pour voir s'il y a un positif dans les 30. Si tous les petits ensembles mélangés donnent négatif, on n'a pas besoin de faire 30 tests. S'il y a un positif dans les 30, on fait 30 tests. Et ça, ça nous fait économiser du réactif. Donc tout est possible, il suffit juste d'être transparent sur les moyens qu'on a.
Et on ne l'est pas pour l'instant, c'est ce que vous nous dites.
S'ils ont été transparents, laissez les médecins généralistes prélever en masse, il n'y a pas de problème.
Merci d'être intervenu, docteur Legrand. Donc, vous êtes médecin à Tourcoing. Merci de ces précisions sur les tests. C'est effectivement beaucoup plus clair. On se retrouve, nous, dans un instant sur Sud Radio avec Lamine Garbi, président de la Fédération hospitalière de l'hospitalisation privée. Avec vous sur Sud Radio, à suivre dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, je suis en ligne avec Lamine Garbi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. On va voir plusieurs choses avec vous. Déjà, on vous avait eu au début de l'épidémie, au début de la pandémie, sur un problème de complémentarité, de coordination entre le privé et le public. Quel bilan est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que vous avez pu travailler avec les hôpitaux? Et est-ce que les cliniques ont été contactées et mises à contribution?
Heureusement que oui, je dirais, parce que sinon l'Île-de-France, les Hauts-de-France n'auraient pas pu répondre pleinement, je dirais, à cette pandémie, à ce besoin de réanimation. Un chiffre, un seul, 26% des lits de réanimation de l'Île-de-France ont été assurés par le privé. Donc se passer de nous aurait été une folie. Donc oui, bien sûr, ça a été corrigé, la complémentarité a fonctionné, et je retiendrai cette belle leçon d'entraide et de service public mené par le privé. C'est important de le rappeler, merci à vous.
Oui, non, mais comment, voilà, je voulais faire une sorte de droit de suite sur ce coup de gueule que vous aviez poussé au début. Aujourd'hui, vous dites, voilà, il faut que les malades n'aient pas peur de ceux qui ne sont pas porteurs du Covid. Il va y avoir, on l'avait évoqué également avec le professeur Amarenko, des gens qui n'ont pas été soignés, qui ne se sont pas fait soigner. Il faut absolument qu'ils retrouvent le chemin des hôpitaux, des cliniques. Et vous lancez une charte, c'est ça, pour rassurer les malades?
Voilà, c'est une charte d'engagement pour rassurer, parce que ça fait maintenant 7 semaines et le temps passe vite ou pas vite, je sais pas, quand on est dans l'action, c'est vrai que ça passe plus ou moins vite, mais ça fait 7 semaines que nos blocs opératoires sont arrêtés, donc ça correspond peut-être à 700, 800 000 patients sur l'ensemble du territoire qui n'ont pas été opérés, qui n'ont pas eu de soins. Alors certaines opérations n'étaient pas urgentes, peuvent attendre, mais d'autres, il faut vraiment que les patients soient rassurés et qu'ils reprennent le chemin. Tout d'abord, des cabinets médicaux, des médecins généralistes, des médecins spécialistes. 70% des consultations des médecins spécialistes ont été annulées ou n'ont pas eu lieu. Donc, il faut qu'ils retournent voir leur spécialiste, qu'ils retournent dans les services d'urgence et dans les services de soins. Nous avons sécurisé le parcours de soins. Nous avons créé un circuit spécifique. Et il faut que nos concitoyens ne s'imaginent pas que dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, c'est le même combat, qu'il y a des Covid partout. Non, c'est pas le cas. Ouais. Nous protégeons les circuits et nous faisons en sorte que l'ensemble des patients, l'ensemble de la filière, soit protégé. Un exemple simple, c'est que tous nos patients qui seront opérés seront en chambre individuelle. Il n'est pas question de mettre des patients dans des chambres doubles. Également sur la chirurgie, nous allons faire en sorte qu'il y ait le maximum de chirurgie ambulatoire pour que l'on reste le moins de temps possible dans un hôpital. On le sait, on est habitué depuis toujours à lutter contre les infections nosocomiales, les bactéries. Ouais. Là, c'est un virus aujourd'hui, mais ce sont les mêmes précautions. Mmh.
Et redire encore une fois aussi que les cliniques ne sont pas forcément plus chères que l'hôpital. Il y a des prises en charge.
C'est important de
le redire.
Oui, bien sûr. Nos services d'urgence, nous avons le tiers payant qui est généralisé. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre carte vitale et votre carte mutuelle, vous n'avez rien à payer. Et même si vous n'avez pas votre carte vitale, le jour où vous venez en urgence, on s'arrange toujours, je dirais, pour faire une avance de soins. C'est pas la difficulté. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle de complément d'honoraires en urgence. Ce sont des tarifs qui sont opposables. Le patient n'a rien à payer. Et aujourd'hui, ce débat doit être, je dirais, porté haut et fort. Il faut vraiment que l'on rattrape, parce que les opérations qui n'ont pas eu lieu devront un jour avoir lieu et on ne pourra pas les absorber parce que de plus il arrive le mois de juillet et d'août, on va travailler en juillet, en août, c'est pas la difficulté, on sera là, on sera présent pour répondre aux besoins, mais ça va prendre du temps, on ne peut pas, et je me mets aussi à la place de nos concitoyens, on a expliqué pendant des mois qu'il fallait absolument pas sortir, qu'il fallait se protéger, et là on leur dit, et leur dit lundi, mais reprenez votre travail, reprenez la voiture. Les messages sont compliqués et nos concitoyens ont peur. Notre rôle, professionnel de santé, c'est de rassurer et de s'engager avec des circuits qui sont simples, des circuits simples pour isoler et protéger nos concitoyens.
Mais le message, vous avez le sentiment qu'il est difficile. Enfin, moi, j'ai le sentiment en tout cas qu'autour de moi, les gens ont peur d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans les cliniques. Et il va y avoir des catastrophes, évidemment. Hein.
Bien sûr.
Mais ce message de dire, message de dire, venez, il y a des circuits non Covid, il est difficile à faire passer.
Oui, oui, bien sûr, mais il y a des circuits non Covid, mais bientôt il y aura plus de circuits Covid parce que heureusement, nous arrivons à traiter cette pandémie. Nous arrivons, je pense, dans les prochaines semaines, à faire en sorte qu'il y ait très très peu de cas et c'est le souhait. Mais j'entends et ça fait maintenant 15 jours. Que j'appelle à la reprise et je suis entendu de manière diffuse, c'est effectivement réel. Mais cela prendra du temps et ce temps-là, il est important de le réduire parce que les pathologies cancéreuses se développent ce qu'on appelle à bas bruit, sans le dire, sans signe extérieur, sauf qu'il y a des tests, il y a des tests de dépistage, il y a la prévention, il y a des examens à faire, et ces examens permettent après d'avoir une intervention chirurgicale. Je ne suis pas en train de pousser, vous vous en doutez bien, à l'intervention chirurgicale, mais lorsque les centres anticancéreux nous expliquent qu'ils ont réduit leur activité de 50%, je suis inquiet, voire terrorisé, parce que je me dis que l'on va avoir à gérer une difficulté complémentaire de retard de soins, et le retard de soins peut être très souvent, source de complications difficiles. Alors, il ne faut pas non plus inquiéter la population, parce qu'on est là pour... Non, il ne faut pas inquiéter. On entend tellement de choses difficiles, de seconde vague, etc. J'en sais rien. Moi, ce que je dis, simplement, c'est qu'il faut que les patients reprennent leur santé en main. Ils doivent reprendre leur santé en main et ne pas avoir peur. Nous respectons la distance sociale, nous avons des gels hydroalcooliques et nos médecins sont formés à la gestion des infections. On lutte, on ne parle plus des infections nosocomiales, mais les infections nosocomiales, elles, je dirais, ont des répercussions annuelles importantes.
Alors, on a pas mal de réactions sur ce que vous dites. Dimitri nous dit les spécialistes qui ont annulé des rendez-vous. Il y a des cabinets qui ont fermé le lendemain du confinement. Il y en a qui nous disent on trouve pas de dentiste. Même pour passer une radio, on nous demande si c'est urgent. Et Sacha nous dit la prise en charge dans les hôpitaux des pathologies hors Covid est désastreuse. Je sais de quoi je parle puisque lui est soignant. Et quand on appelle le 15, on vous répond restez chez vous. Corinne nous dit mon rendez-vous pour mon IRM annuel aurait dû avoir lieu en avril. Elle est repoussée en février de l'année prochaine. Mais c'est scandaleux.
C'est effectivement difficile. Les chirurgiens dentistes ont dû fermer leur cabinet sur recommandation, ou du moins ce sont les ordres qui ont imposé la fermeture des cabinets. Il ne me revient pas de commenter cette position de l'ordre, mais j'en ai été un peu surpris. Et également sur les masseurs kinésithérapeutes, ils ont arrêté parce que leur ordre leur a demandé d'arrêter. Je suis un peu surpris sur les délais d'IRM. Bien sûr que c'est scandaleux.
C'est pas normal, Corinne. Corinne, c'est pas normal. Vous pouvez pas en plus aller. Enfin, on connaît bien Corinne qui est une auditrice fidèle. Vous ne pouvez pas attendre un an pour repasser une IRM. On n'a plus le temps, c'est dommage. Mais par exemple, si je vais dans une clinique passer une IRM, ça va me coûter plus cher que si je vais à l'hôpital.
Pas du tout. Ce sont les tarifs qui sont réglementés par la sécurité. On dépend tous de la sécurité sociale. On dépend tous de tarifs qui sont les mêmes entre le public et le privé pour un acte d'imagerie, d'IRM ou de scanner. Et surtout, il faut bien le dire, vous n'aurez pas à payer. Nos services d'urgence tournent aujourd'hui à 20 ou 30%. Donc si vous avez un problème à régler, allez en service d'urgence, on vous fera passer un scanner, un IRM, rapidement.
Je pense
que bien sûr qu'il y a des histoires extrêmement terribles d'attente de 9 mois et 10 mois, mais heureusement, c'est pas le cas tous les jours. Et les cabinets de radiologie tournent aujourd'hui à 60%. Donc j'aurais tendance à penser...
Donc c'est pas normal,
On refera une
séquence avec vous parce que visiblement ça fait beaucoup réagir nos auditeurs et c'est vrai qu'il y a une responsabilité, pardon si je suis un petit peu longue, il y a une responsabilité tout de même des hôpitaux et des médecins qui ont dit aux gens restez chez vous si vous n'avez pas le Covid. Donc maintenant c'est vrai que souvent les médecins ont beau jeu de dire oh là là il faut venir etc. alors qu'on les a repoussés. Mais bon, on y reviendra. Merci Lamine Garbi d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité d'aujourd'hui. Restez avec nous sur Sud Radio.